Les cours du Collège de France, Isabelle Ratier, chaire Histoire des systèmes de pensée de l'Inde.
Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes désormais bien engagés dans le débat indien sur l'existence du soi. Mais la semaine dernière, je vous ai laissé dans un suspense presque insoutenable puisque nous nous sommes quittés sur un argument qui a été opposé aux bouddhistes et nous ne savons pas encore comment les bouddhistes y ont répondu. Alors cet argument portait sur la mémoire qui a été vue assez tôt comme un élément décisif en faveur de la thèse de l'existence du soi. Et nous avions lu un extrait d'une œuvre du bouddhiste Vasubandhu, œuvre dans laquelle le partisan du soi expliquait que s'il n'y a que des cognitions instantanées et s'il n'existe aucun soi qui serait un sujet conscient, un et permanent, eh bien, puisque nos expériences passées sont passées, par définition elles ont disparu, et donc on ne voit pas comment nous pourrions nous souvenir de nos expériences passées. Et puis, ce même partisan du soi faisait aussi remarquer que si, comme les bouddhistes le prétendent, la conscience n'est qu'une série de cognitions qui sont parfaitement instantanées, et si donc chacun de nous devient quelqu'un d'autre à chaque instant, eh bien la personne qui est assise à côté de vous à l'instant présent dans la salle, même si vous ne la connaissez absolument pas, devrait pouvoir se souvenir de la tasse de café que vous avez bu ce matin dans votre cuisine. Parce que, certes, la personne qui a bu cette tasse de café ce matin dans votre cuisine, ce n'est pas la personne qui est maintenant à côté de vous, mais cette personne passée, ce n'est pas vous non plus, parce que vous êtes déjà quelqu'un d'autre, vous n'êtes déjà plus cette personne-là. Il n'y a donc pas de raison, disait cet adversaire, pour que votre voisin ne soit pas capable de se souvenir aussi bien que vous de vos propres expériences. Alors, l'adversaire de Vasubandhu ici appartient à la tradition brahmanique dite du Vaisheshika, mais on trouve aussi dans la tradition également brahmanique du Nyaya cette même idée que certains faits de conscience qui comportent un souvenir peuvent prouver l'existence du soi. Et nous avions déjà vu la semaine dernière que Vatsyayana, qui est l'auteur du premier commentaire préservé au Nyaya Sutra, aux aphorismes du Nyaya, ce Vatsyayana veut lire dans un passage de ses aphorismes une preuve de l'existence du soi qui, selon lui, repose en partie sur la mémoire. Et il veut lire ainsi ce passage, d'ailleurs, en dépit du fait que ces aphorismes eux-mêmes ne mentionnent pas du tout la mémoire, mais seulement notre capacité à appréhender un même objet à l'aide d'organes sensoriels différents. Mais selon Vatsyayana, en fait, ce passage des Nyaya Sutra cherche à prouver l'existence du soi à partir du fait que, par exemple, nous avons pu toucher autrefois un objet, et si nous voyons cet objet maintenant, eh bien, nous pouvons nous souvenir l'avoir touché auparavant. Et pourquoi est-ce que c'est une preuve de l'existence du soi selon lui ? Parce que, dans un tel cas, nous sommes capables d'appréhender ensemble, d'appréhender de manière synthétique la cognition passée et la cognition présente de cet objet, en dépit du fait que ces deux cognitions sont très différentes. Et ça suppose un même sujet conscient qui est distinct de ces cognitions, qui est distinct aussi des organes sensoriels et qui dure, puisque ce sujet doit exister depuis la cognition passée jusqu'à la cognition actuelle. Et Vatsyayana va employer une tactique assez semblable dans son explication d'un autre aphorisme très célèbre du Nyaya. Et il nous faut donc nous arrêter quelques instants sur cet autre aphorisme. Il s'agit de Nyaya Sutra 1.1.10. Et selon ce Nyaya Sutra, le désir, l'aversion, l'effort, le plaisir, la douleur, les cognitions sont les marques inférentielles du soi. Alors ce sutra énumère ce à partir de quoi on peut démontrer l'existence du soi. Et le terme « linga » qui apparaît ici peut prendre des sens très différents en sanskrit, mais parmi ces sens, il y a l'idée d'une caractéristique, il y a l'idée d'une marque qui permet de reconnaître quelque chose. Et ici, ce terme a le sens technique de ce que les philosophes indiens appellent une marque inférentielle, à savoir quelque chose dont l'existence même nous indique que quelque chose d'autre, en l'occurrence ici le soi, doit nécessairement exister. Alors par exemple, on dit que la fumée est le linga, ou la marque inférentielle du feu. Puisque si vous voyez de la fumée au loin sur une colline, même si vous êtes beaucoup trop loin pour pouvoir voir le feu lui-même, vous pouvez inférer à partir de votre seule perception de la fumée qu'il doit y avoir un incendie sur la colline, parce que vous avez conscience de ce qu'on appelle la concomitance invariable entre le feu et la fumée. Autrement dit, vous savez déjà, pour en avoir fait l'expérience directe dans le passé, que là où il y a du feu, il y a de la fumée, et que là où il n'y a pas de feu, il n'y a pas de fumée. Et c'est cette concomitance invariable qui confère à la fumée ce statut de marque inférentielle du feu. Mais alors, dans le cas de notre sutra 1.10, ce n'est pas évident pour nous de décider en quoi le désir, l'aversion, l'effort, le plaisir, la douleur et les cognitions sont des marques inférentielles du soi. En quoi est-ce que l'existence de ces éléments-là nous permet de savoir que le soi doit nécessairement exister? Est-ce que c'est en vertu d'une relation de causalité? Est-ce que le soi est leur cause, comme dans le cas de la fumée, qui est l'effet causé par le feu? Ou bien est-ce que c'est un autre type de relation qui entre en jeu ici? Est-ce que d'ailleurs tous les éléments de cette liste sont à mettre sur le même plan ou pas? Ça n'a rien d'évident a priori. Et les commentateurs de ces aphorismes vont répondre différemment à toutes ces questions. Alors voici comment le commentateur Vatsyayana explique en quoi le premier élément dans cette liste, à savoir le désir, est une marque qui permet d'inférer l'existence du soi. Le soi, ayant éprouvé du plaisir par le passé, en raison du contact avec un objet d'une certaine sorte, et voyant un objet de cette même sorte, désire s'en emparer. Ce désir de s'emparer d'un objet qui naît de l'appréhension synthétique des perceptions passées et présentes appartenant à une entité unique qui perçoit divers objets est une marque inférentielle du soi. Alors, vous voyez comment, ici encore, Vatsyayana introduit au cœur de l'inférence du soi cette idée d'une appréhension synthétique, pratisandhana en sanskrit, des cognitions qui sont passées et présentes à la fois. Et ça, c'est une idée qu'il avait déjà utilisée pour expliquer l'autre passage des Nyaya Sutra que nous avions examiné la semaine dernière. Et ici encore, cette idée d'une synthèse qui comporte un souvenir, qui comporte le rappel d'une cognition passée, n'apparaît pas du tout. En fait, vous pouvez le voir dans le sutra qu'il commente, et il est bien sûr permis de soupçonner qu'ici, comme le font souvent les commentateurs indiens, Vatsyayana fait preuve d'une certaine créativité vis-à-vis du texte qu'il commente, et peut-être qu'il y introduit discrètement des idées nouvelles. Quoi qu'il en soit, selon Vatsyayana, si le désir est une marque inférentielle du soi, c'est parce qu'il n'y a pas de désir, et donc il n'y a pas d'élan pour s'approprier quelque chose, si on ne sait pas déjà que cette chose est susceptible, d'une manière ou d'une autre, de nous procurer du plaisir. Et donc, il n'y a pas de désir sans le souvenir, aussi lointain et aussi obscur soit-il, d'un plaisir passé que nous a causé une chose semblable, comme Vatsyayana le précise un peu plus loin quand il nous dit « Et c'est grâce au souvenir, smriti, du plaisir et de la douleur que telle personne cherche à obtenir un objet qui cause le plaisir ». Or, le souvenir de l'objet qui nous a causé du plaisir et l'appréhension synthétique que nous sommes capables d'opérer entre notre expérience passée plaisante et puis la perception actuelle d'un objet semblable, ça suppose un sujet qui existait déjà dans le passé et qui existe encore maintenant, et on est obligé de l'inférer pour rendre compte du phénomène du désir. Et en fait, Vatsyayana va analyser de la même manière, c'est-à-dire en faisant appel à cette notion de synthèse mnésique, tous les éléments de cette liste des marques du soi, de Nyaya Sutra 1-10, y compris d'ailleurs l'effort, prayatna, c'est-à-dire le fait qu'on entreprend d'agir, qu'on se met à agir, et cet élément-là est particulièrement important parce que c'est lui qui est déclenché par le désir ou par son contraire, l'aversion, parce qu'on fait effort pour obtenir un objet désirable ou alors pour éviter un objet qu'on a en aversion. Et c'est l'effort qui, à son tour, va rendre possible toutes les activités humaines. Et c'est pourquoi la mémoire va constituer dans l'arsenal des partisans du soi un argument massu, une sorte de grosse bertha des défenseurs de l'atman, parce que la mémoire est comprise précisément comme le fondement de toutes les activités humaines. Et c'est précisément ce que souligne le Shivaita Abhinavagupta des siècles plus tard, quand il résume la stratégie des partisans du soi en disant « Et la mémoire, de par sa nature même, ne peut être niée, dans la mesure où c'est un fait d'expérience que toute activité mondaine a lieu grâce à elle. Elle nous montre donc que lorsqu'une expérience est détruite, quelque chose n'est pas détruit. Et ce quelque chose, c'est l'agent de l'expérience, c'est-à-dire celui qui fait l'expérience, le soi permanent qui est le sujet de l'expérience. Et ce seul raisonnement constitue la vie même de la démonstration de l'existence du soi. » Alors, le mot « vyavahara » qui est employé par Abhinavagupta ici est un mot essentiel dans la langue philosophique sanskrite, et c'est un mot désespérant parce qu'il est intraduisible. Alors disons qu'il désigne toute l'existence ordinaire, toute l'existence quotidienne dans ce qu'elle comporte d'interaction entre les personnes et aussi en tant qu'elle est orientée vers l'acquisition de buts pratiques. D'ailleurs, le vyavahara, dans les textes non techniques, ça désigne souvent le commerce ou les transactions commerciales. Mais vyavahara, ça désigne aussi l'usage, au sens de ce qui est fondé sur l'habitude et sur l'emploi répété. D'ailleurs, ça peut aussi désigner la jurisprudence dans les textes juridiques. Et puis, cette notion d'usage a aussi une importante connotation linguistique, parce que le vyavahara, c'est aussi, et peut-être avant tout, l'usage verbal, l'usage des mots. Et donc, dans les textes philosophiques, le terme va désigner l'ensemble des activités et des discours, pour autant qu'ils tendent vers l'accomplissement d'un besoin. Et c'est tout l'usage mondain, alors mondain non pas au sens étroit des mondanités, mais au sens beaucoup plus large de ce que tout le monde fait et dit, au sens du constant affairement humain. Or, ce vyavahara, nous dit Abhinavagupta, il repose tout entier sur la mémoire. Pourquoi ? Parce que, comme le montrait Vatsyayana, toute activité mondaine est causée par un effort pour agir, et l'effort est causé par le désir et l'aversion, lesquels, à leur tour, reposent sur le souvenir. Alors comment les bouddhistes répliquent-ils à cet argument massu de la mémoire ? Eh bien, pour comprendre la réponse bouddhique ici, il faut avoir à l'esprit un schéma explicatif de la mémoire dont le principe général est accepté par à peu près toutes les traditions philosophiques. Selon ce schéma général, toute expérience d'un objet perçu, comme cette orange que vous avez, par hypothèse, vue ce matin au petit déjeuner, toute expérience laisse dans votre conscience une trace résiduelle, un samskara, ou une empreinte, vasana. Quand vous percevez un objet, cette perception, aussi triviale, aussi fugitive soit-elle, doit marquer en quelque manière votre conscience. Elle doit laisser quelque chose comme une trace dans votre conscience, et votre conscience peut être occupée ensuite à considérer de tout autres objets, comme par exemple le blason du Collège de France auquel vous ne manquez pas de penser tous les matins, le temps qu'il fait, etc. Et donc votre conscience, dans la suite, ne se présente plus comme la conscience de l'orange, et pourtant la trace de vos perceptions passées doit être conservée d'une manière ou d'une autre à l'intérieur de la conscience, et cette trace va pouvoir demeurer longtemps latente, cachée en quelque sorte. Elle va continuer à exister comme une sorte de résidu inconscient qui va persister dans la conscience, mais à un moment donné, un certain stimulus, comme la perception d'un objet qui est plus ou moins semblable à celui que vous avez perçu auparavant, va produire ce qu'on appelle en sanskrit littéralement l'éveil, prabodha, de la trace mnésique. Autrement dit, cette perception d'une chose semblable va stimuler la trace mnésique et va déclencher le retour à la conscience de la manifestation de l'objet passé, et donc le souvenir. Alors les bouddhistes vont affirmer que l'explication de la mémoire, ça ne requiert pas autre chose que ce mécanisme de traces résiduelles, et ils vont dire qu'on n'a pas besoin, pour comprendre la mémoire, de faire intervenir un sujet conscient permanent. Pourquoi ? Parce que, comme le disent les bouddhistes, la conscience n'est qu'une série d'événements qui sont chacun purement instantanés, ce sont nos petits disques bleus à l'écran, mais chacun de ces événements parfaitement instantané, dans le seul instant où il existe, conditionne le suivant. Il contribue à produire le suivant, et donc il contribue à lui donner sa forme spécifique. Et du coup, à l'instant T1, vous percevez votre orange, et puis à l'instant T2, vous pensez à autre chose, mais comme la cognition de l'instant T2 a été conditionnée par la cognition de l'instant T1, causée par cette cognition, eh bien cette cognition T2 va porter l'empreinte ou la trace latente de la première cognition. Et on peut imaginer tous les instants intermédiaires qu'on veut entre T2 et T3, mais quoi qu'il en soit, chacune des cognitions suivantes, tout en étant parfaitement différentes les unes des autres, en particulier parce qu'elle va viser des objets différents, va être causalement conditionnée par les précédentes, et c'est pourquoi chacune, tout en étant purement instantanée et non permanente, va venir à l'existence en comportant les traces latentes des précédentes. Et avec ce schéma sériel, on n'a pas besoin de postuler l'existence d'un sujet permanent pour rendre compte de la mémoire, et grâce à ce schéma, on s'explique pourquoi aussi vous ne vous souvenez pas des expériences que seul votre voisin a faites, et pourquoi votre voisin ne se souvient pas de vos expériences à vous. C'est simplement parce que les expériences passées de votre voisin ne font pas partie de la série causale particulière de cognition dont vous êtes actuellement le dernier maillon, et réciproquement. Et c'est précisément ce que Vasubandhu va rétorquer à l'objection qu'on lui a faite, selon laquelle s'il n'y a que des cognitions instantanées, eh bien une personne devrait être capable de se souvenir des expériences passées d'une autre personne. Donc l'objection se présentait ainsi: s'il n'y a que des événements mentaux, comme vous, bouddhistes, le prétendez, comment alors une cognition peut-elle se remémorer quelque chose qui a été perçu par une autre cognition? Car s'il en va ainsi que vous l'affirmez, la cognition de Yajñadatta devrait pouvoir se souvenir de quelque chose qui a été perçu par la cognition de Devadatta. Et Vasubandhu répond: non, parce qu'il manque une relation entre ces deux cognitions, que sont l'individu Ajnanatta et l'individu Devadatta, ou entre ces deux cognitions que sont vous-même et votre voisin. Il leur manque une relation, car il n'y a pas de relation de causalité entre elles, comme celle qui existe entre deux cognitions qui appartiennent à une même série. Qui plus est, nous les bouddhistes, nous n'affirmons pas qu'une cognition se souvient de quelque chose qui a été perçu par une autre cognition, mais plutôt que c'est à partir d'une cognition consistant en une perception que surgit une autre cognition consistant en un souvenir, et ce, en vertu d'une transformation de la série, là encore, Santana. Alors, de la même manière, le bouddhiste Dharmakirti, deux siècles plus tard, va reprendre l'idée de Vatsyayana, selon laquelle le souvenir, c'est le fondement même de tout le Vyavahara, de toute notre existence mondaine. Mais Dharmakirti va arguer que, justement, contrairement à ce qu'affirme Vatsyayana, l'analyse bouddhique de la conscience permet de rendre compte de l'expérience ordinaire dans sa totalité sans avoir à postuler l'existence du soi, parce que ce schéma sériel de la conscience permet de faire complètement l'économie d'un sujet conscient permanent. C'est le souvenir qui rend possible l'activité mondaine, le Vyavahara, laquelle a lieu grâce au désir de choses perçues autrefois, dès qu'on les perçoit à nouveau, et aussi grâce à l'opposé du désir, à savoir l'aversion pour d'autres choses perçues autrefois. Le souvenir, quant à lui, provient du pouvoir d'une expérience passée. Ici, le mot shakti, pouvoir, est en fait un terme technique qui est un synonyme pour l'empreinte mnésique, la vasana. Donc il provient de l'empreinte d'une expérience passée et il appréhende de manière synthétique les objets dont on a fait l'expérience. Telle est en effet la nature du réel, une expérience claire et distincte laisse le germe d'un souvenir, et là encore bija, c'est un synonyme pour la notion même d'empreinte mnésique. Du fait qu'on perçoit plus tard quelque chose de semblable, ce germe mnésique se trouve actualisé, littéralement il y a un éveil, prabodha, de ce germe mnésique ou de cette empreinte. L'empreinte du désir se développe alors et l'action peut avoir lieu. Alors vous le voyez, la fonction de synthèse qui doit permettre d'appréhender ensemble un objet passé et un objet présent n'est pas assurée, selon Dharmakirti, par une entité qui serait quelque chose de plus que les cognitions et qui, contrairement aux cognitions, aurait une permanence. Non, selon Dharmakirti, cette fonction de synthèse est assurée par le souvenir lui-même, souvenir qui n'est qu'une cognition instantanée parmi d'autres cognitions et qui a été conditionné par la série des cognitions précédentes. Alors, en réaction à cette explication bouddhique de la mémoire qui prétend se passer entièrement, donc du postulat d'un sujet permanent, les partisans du soi vont quand même remarquer que par définition, une trace, une empreinte, ça ne peut pas exister indépendamment de quelque chose comme un support, quelque chose comme un substrat dans lequel cette trace est laissée et dans lequel elle va pouvoir durer, parce qu'une trace, c'est justement ce qui reste dans ou sur quelque chose. Et donc il faut bien pour ces traces un substrat ou un support, ashraya, qui soit permanent, sans quoi la notion même d'empreinte ou de trace serait dénuée de sens. Et ça, c'est une idée que de nombreux textes attribuent, là encore, au Vaisheshika et au Nyaya. Par exemple, le Shivaïte dualiste Ramakanta attribue à un défenseur du Nyaya l'argument suivant, dans un débat avec un bouddhiste: la trace résiduelle elle-même serait impossible en l'absence d'un substrat permanent dans lequel elle réside. Par conséquent, le soi est prouvé grâce à cette trace résiduelle. Alors, le mot dharmin, qui est rendu ici par substrat, signifie en fait littéralement simplement ce qui possède un dharma. Et ce terme dharma, nous l'avons déjà rencontré et il a de nombreux sens et des sens très différents, mais ici, il est employé en un sens technique pour désigner une qualité. Le dharmin, dans les textes de logique et d'épistémologie, c'est ce qui possède ou ce qui comporte une qualité. Et de même, le Shivaïta Abhinavagupta va faire dire à quelqu'un qui appartient à la tradition du Vaisheshika, mais il faut bien définir un support ashraya de cette trace résiduelle elle-même, car en tant que qualité, elle requiert un support, et ce support, ce doit être le soi. Et Abhinavagupta dit ici, ou plutôt son adversaire qui appartient au Vaisheshika, que la trace résiduelle doit avoir un substrat parce qu'elle est un guna. Et guna, c'est un autre mot qui désigne également la qualité. Et en fait, ici, ce personnage est en train de faire allusion à une définition qui est canonique dans le système du Vaisheshika, la définition de deux grandes catégories, à savoir justement la catégorie de la substance, dravya, et la catégorie de la qualité, guna. Alors la substance est définie dans le Vaisheshika d'abord comme ce qui est capable de posséder des qualités, ce qui est susceptible d'avoir des qualités, mais aussi comme ce qui est capable d'exister par soi-même, sans avoir à reposer dans autre chose nécessairement. L'auteur du Vaisheshika, qui s'appelle Sridhara, précise par exemple que comprendre que quelque chose est une substance, c'est simplement comprendre que cette chose subsiste par elle-même. En revanche, une qualité, c'est par définition incapable d'exister sans un support. Un lotus peut exister sans être nécessairement bleu, mais le bleu, ça n'existe pas de manière indépendante. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez rencontrer tout seul, indépendamment d'une chose qui se trouve être bleue. Et donc ça doit exister dans une substance qui se trouve avoir la qualité bleue, et toute qualité réside dans une substance ou a pour support une substance. Et donc les partisans du Vaisheshika, pour établir l'existence du soi, affirment que la trace résiduelle, l'empreinte, appartient à la catégorie de la qualité, et donc elle a besoin pour exister d'un support, et ce support, ça doit être la substance qu'on appelle le soi. Alors, de même dans le Nyaya, on a voulu lire notre sutra à indice comme signifiant que les marques du soi qui y sont énumérées sont des qualités. Et en tant que qualité, elles ont besoin d'une substance qui soit leur substrat ou leur support. Et ce substrat, eh bien, ce doit être le soi. Parce que, certes, on l'a vu, Vatthiayana, lui, concentre son analyse sur cette notion de synthèse mnésique qui l'intéresse tant, mais ce n'est pas ainsi que tous lisent ce sutra. Et par exemple, un commentateur un peu plus tardif, qui s'appelle Udyotakara, explique d'abord l'interprétation de Vatthiayana, mais ensuite Udyotakara ajoute, ou bien encore, certains expliquent autrement. Le sutra, le désir, l'aversion, l'effort, le plaisir, la douleur, les cognitions sont les marques inférentielles du soi. Selon eux, ils s'appuient sur le principe suivant. Le désir, etc., sont des qualités, guna. Or, les qualités sont dépendantes d'autres choses, paratantra. Et après avoir montré que cette liste est bel et bien une liste de qualités et que ces qualités ne peuvent pas appartenir à une autre substance comme le corps, Udyotakara va conclure, et parce qu'il est impossible que le corps soit la substance dont les qualités dépendent, puisqu'il ne reste qu'une possibilité, à savoir que ce sont des qualités qui appartiennent au soi, l'existence du soi est établie. Alors, il faut aussi préciser que dans les Vaisheshika Sutras, on trouve également une liste des marques inférentielles du soi. Cette liste a beaucoup d'éléments en commun avec celle du Nyaya, même si elle ne lui est pas tout à fait identique. Et un auteur important du Vaisheshika que nous avons déjà rencontré, qui s'appelle Prashastaparada, va aussi lire la liste des marques inférentielles du soi comme une invitation à inférer le soi en tant que substance qui constitue le substrat des qualités énumérées dans la liste. Le soi est inféré comme la substance qui est qualifiée par les qualités que sont la cognition, le plaisir, la douleur, le désir, l'aversion et l'effort. Alors, comment les bouddhistes vont-ils réagir ? Eh bien, ils vont s'attaquer à la notion même de support. Et ils vont montrer que cette notion-là peut bien faire sens quand on parle de corps qui sont situés dans l'espace, mais elle devient très problématique dès lors qu'on essaye de l'appliquer au fait de conscience. Alors Vasubandhu dit ainsi, « Si le partisan du soi affirme que la cognition et la trace résiduelle ne sont possibles que s'il existe un soi, il se paie de mots. S'il prétend que le soi est leur support, leur ashraya, il doit expliquer qui est le support de quoi et comment. Car la cognition et la trace résiduelle ne requièrent pas un support à la manière d'une fresque ou d'un fruit comme un jujube. Et le soi ne peut pas non plus être un support à la manière d'un mur pour la fresque ou d'un bol ou quelque autre contenant pour le jujube. Parce qu'il s'ensuivrait la conséquence inacceptable, littéralement la faute d'Osha, que le soi devrait offrir une résistance physique et avoir un lieu distinct. Donc les cognitions, nous dit Vasubandhu, de même que les traces résiduelles, ça n'existe pas dans la conscience à la manière de fruits qui existent dans un bol. C'est par analogie avec ce rapport spatial entre contenant et contenu que nous essayons de nous représenter le soi, que nous essayons de nous imaginer le soi, mais en fait cette analogie, nous dit-il, est contradictoire avec le principe le plus cher aux partisans même du soi, à savoir l'idée selon laquelle le soi n'est pas de nature matérielle ou corporelle, et donc le soi ne peut pas se comporter comme un corps parmi les corps, un corps qui offrirait une résistance physique aux autres corps pour pouvoir leur servir de support, et un corps qui entretiendrait avec les autres des relations dans l'espace. Alors là, l'adversaire de Vasubandhu, qui appartient au Vaisheshika, se rebiffe, et il dit « Mais enfin, le soi n'est pas du tout support en ce sens-là. » Alors le bouddhiste demande « En quel sens l'est-il donc ?» Et le partisan du soi répond « Le soi est leur support tout comme la substance qu'est la terre est le support des qualités que sont l'odeur, etc. » Alors ici, selon le partisan de Vaisheshika, le soi est un support au sens où une substance, comme la terre par exemple, est le support ou le substrat dans lequel peuvent exister différentes qualités. Et ici, il est en train de faire allusion à un célèbre aphorisme du Vaisheshika qui énumère les différentes qualités de la substance terre. Le voici. La substance terre possède les qualités que sont la forme visuelle, le goût, l'odeur et la tangibilité. Alors, Vasubandhu réagit à cet argument en disant qu'il est tout à fait ravi d'entendre ça. Et pourquoi est-il ravi? Car c'est précisément cela, dit-il, qui nous montre que le soi n'existe pas. Tout comme il n'y a pas de terre en dehors des qualités que sont l'odeur, etc. Car qui peut discerner une terre qui serait autre chose que son odeur et ses autres prétendues qualités? Alors si Vasubandhu est ravi, c'est parce que la réponse de son adversaire là, lui donne l'occasion de critiquer la distinction même que fait le Vaisheshika entre la substance et la qualité, distinction sur laquelle repose tout son argument. Parce que selon Vasubandhu, en fait ces catégories de substance et de qualité ne correspondent pas à des entités qui seraient réellement distinctes. La substance terre n'existe pas indépendamment de ce que le partisan du Vaisheshika énumère comme étant ses qualités. Elle n'est pas autre chose en fait de ses qualités, parce que si on essaye de s'imaginer une terre qui n'aurait ni odeur, ni aspect visuel, ni goût, ni qualité tactile, eh bien, on ne s'imagine plus rien du tout, en réalité. Ce n'est donc que par une sorte d'effet de langage que nous parlons de ces qualités comme si elles étaient distinctes de leur support. Et Vasubandhu dit que c'est un peu comme quand on parle du corps d'une statue, alors qu'en fait, la statue et son corps ne sont qu'une seule et même chose. Et un autre bouddhiste qui s'appelle Chandrakirti va employer un peu plus tard une autre image qui est peut-être encore plus parlante et qui fait intervenir le dieu indien des éclipses. Alors le voici, il s'appelle Rahu. Et ce dieu des éclipses est traditionnellement représenté comme une tête sans corps, parce qu'il est tout occupé, évidemment, à avaler la lune et le soleil, et c'est son unique raison d'être, même s'il arrive, comme sur l'image que vous voyez, qu'on lui concède quand même une paire de mains pour l'aider à attraper donc, la lune et le soleil, mais enfin, on considère que Rahu n'est véritablement qu'une tête. Or, si on voit le dieu Rahu sur une image, on vous le montrera en disant mais tiens, voilà la tête de Rahu. Or, les bouddhistes font remarquer que c'est redondant de dire la tête de Rahu. C'est un pléonasme, puisque Rahu n'est pas autre chose que sa tête. Eh bien, disent les bouddhistes, de la même manière, une substance n'est pas autre chose que ses qualités. Et en fait, l'argument du Vaisheshika et du Nyaya, selon lesquels les événements cognitifs seraient des qualités qui auraient besoin d'exister dans une substance distincte de ces qualités, cet argument n'a aucune valeur parce qu'au fond, il ne repose que sur une sorte de jeu de mots, sur une distinction qui est purement nominale, mais qui n'est pas réelle. Et les partisans du soi vont s'efforcer de montrer de leur côté, pour échapper à cette critique-là, que le mécanisme des traces résiduelles, qui est utilisé par les bouddhistes pour expliquer l'apparente continuité de la conscience, ce mécanisme ne permet pas de rendre compte de tous les phénomènes de conscience, et en particulier, il y en a un qui résiste absolument à l'analyse bouddhique de la conscience, et c'est la capacité chez tout sujet conscient à dire et à penser « je ». « Je », ça se dit « aham » en sanskrit. Alors le Vaisheshika, le Nyaya et la Mimamsa voient dans cette capacité à dire et à penser « je » une preuve de l'existence du soi. Et on trouve déjà dans les Vaisheshika Sutras une preuve de l'existence du soi qui est fondée sur l'usage du mot « je ». La connaissance de l'existence du soi, disent les Vaisheshika Sutras, n'est pas de nature purement scripturaire, autrement dit, ça n'est pas un simple article de foi, on peut la démontrer rationnellement. Pourquoi ? Car on la tire du fait que le mot « je » est distinct, est séparé, où il comporte une distinction, une séparation. Alors, ce mot vyatireka, hein, qui veut dire distinction, séparation, c'est le mot clé de cet argument ici, mais il est d'interprétation délicate, et certains auteurs postérieurs ont avancé des explications différentes de celles que je vous propose ici, mais il est très probable, et d'autres l'ont montré avant moi, qu'à l'origine, ce sutra signifiait que parce que le mot « je » est distinct, c'est-à-dire distinct de tous les autres mots, il doit y avoir une réalité qui lui correspond et qui est elle-même distincte de toutes les autres réalités. Et ce raisonnement-là repose sur un principe qui est implicite ici, mais comme l'a montré Klaus Oetke, en fait il est souvent employé, et là de manière explicite dans les Vaisheshika Sutras, et il consiste à considérer que à tout mot distinct doit correspondre une réalité distincte. Et donc, l'usage du mot « je » chez toute personne, le fait que toute personne emploie ce terme en plus de mots comme « corps », « état de conscience », « pensée », « perception », etc., prouve qu'il existe un sujet permanent qui se distingue du corps, mais qui se distingue aussi des cognitions, etc. Notre bouddhiste Vasubandhu va donc s'efforcer de montrer qu'en réalité, ce que vise le mot « je » n'est pas du tout le soi, ça n'est rien d'autre en fait que la réalité toute multiple et changeante que les bouddhistes appellent les agrégats, les skandhas. Comme dans ce passage, attendez, je vais avancer un petit peu. Alors le bouddhiste demande qui est donc celui qu'on appelle le « je » ? Et le partisan du soi répond « celui que vise l'expression du « je ». Bon, il ne s'est pas beaucoup avancé, donc le bouddhiste repart à l'assaut. « Que vise donc l'expression du « je » ?» demande-t-il. Et avant même que le partisan du soi ait eu le temps de répondre « ouf » ou « atman », le bouddhiste lui-même répond « elle vise les agrégats, elle vise les skandhas ». Et le partisan du soir rétorque, mais comment le savez-vous? Et le bouddhiste répond, parce que nous avons un attachement à ces agrégats et parce qu'ils ont une relation de co-référence avec les cognitions pâles, etc. Alors ici, Vasubandhu fait référence à une notion qui est importante dans la théorie grammaticale, la notion de co-référence sur laquelle je ne vais pas m'attarder aujourd'hui, mais en gros, elle désigne le fait que deux mots qui, dans une phrase, sont grammaticalement congruents, qui fonctionnent ensemble, si vous voulez, se réfèrent à la même entité dénotée, comme quand nous disons un lotus bleu, ou quand nous disons le lotus est bleu. Eh bien, lotus et bleu sont des mots en relation de co-référence. Or, ajoute Vasubandhu, on constate que cette expression du « je » est en relation de co-référence avec les cognitions pâle, etc., dans des phrases comme « je suis pâle »,« je suis hâlé », »,« je suis gros », »,« je suis maigre », »,« je suis vieux », »,« je suis jeune ». Et vous-même, vous les partisans du soi, vous n'admettez pas que ces aspects qu'on prédique ainsi du « je » appartiennent au soi. Cela nous fait donc aussi comprendre que ce « je » vise en fait les agrégats. Alors Vasubandhu fait valoir ici que le mot « je » ne peut absolument pas prouver l'existence du soi. Pourquoi ? Parce que nous prédiquons sans cesse du « je » des propriétés qu'en fait on ne peut attribuer qu'aux agrégats. Parce que même le partisan du soi admet que ce qui est pâle ou ce qui est bronzé, ce qui est gros ou maigre, etc., c'est le corps, donc ce que le bouddhiste appelle l'agrégat de la forme corporelle. Et puis nous disons « je suis jeune » ou « je suis vieux ». Et si le soi était jeune ou vieux, eh bien il ne serait pas inaltérable et donc il ne serait pas le soi. Et du coup, affirme Vasubandhu, eh bien, le je, ça n'est en fait qu'une façon de parler des agrégats impermanents et rien d'autre. Alors, certains philosophes brahmaniques vont essayer d'esquiver ce coup assez rude de Vasubandhu en arguant que, eh bien, en fait, le sens premier, le sens littéral du mot je, c'est bien le soi. Mais dans certaines situations particulières, quand nous disons « je suis maigre »,« je suis gros », etc., en fait, nous ne sommes pas vraiment en train de prédiquer du soi des attributs corporels, parce que dans ces situations-là, en fait, nous n'employons le mot « je » qu'en un sens figuré, comme une image, en quelque sorte, alors que nous ne voulons pas véritablement parler du soi dans ces moments-là, mais seulement du corps. Et ça, c'est une idée ancienne, une idée qu'on trouve déjà dans les Vaisheshika Sutra, dans un passage difficile qui a fait l'objet d'analyses fouillées et divergentes, notamment par Klaus Oetke et par Karine Preisendanz. L'interprétation que je propose ici est encore un peu différente de celle qu'ils ont défendue et je n'ai pas de certitude absolue concernant ma propre lecture. Je vous livre simplement ici ce que je comprends de ce passage et qui est fondé en grande partie sur le commentaire de Chandrananda. Alors, de plus, selon l'adversaire du soi, dit ce passage des Vaisheshika Sutra, on constate par expérience directe que le mot « je » désigne une entité visible, c'est-à-dire le corps, dans des propositions comme « je suis Devadatta »,« je suis Yajñadatta », puisqu'on dit aussi « Devadatta marche »,« Vishnu Mitra marche », or seuls des corps peuvent marcher. Si l'adversaire du soi avance cet argument-là, le défenseur du soi répond « c'est à cause d'un sens figuré qu'on constate ainsi par expérience directe que le mot « je » désigne le corps ». L'adversaire du soi répond, mais ce sens figuré est douteux. Autrement dit, il veut dire, mais pourquoi ne pas considérer simplement que le mot « je », ça se réfère tout à fait littéralement au corps. Et le défenseur du soi répond, eh bien parce que le mot « je » n'est employé qu'à l'égard de nous-mêmes et non pas à l'égard d'un autre, on constate par expérience directe qu'il désigne autre chose que le corps. Alors, le dernier argument n'est pas évident, mais il va être expliqué de la manière suivante par le commentateur Chandrananda. Et que nous dit-il ? Il nous dit « si le mot « je » désignait le corps, alors il serait employé par tous à l'égard de tel corps, de même que tous emploient le mot « devadatta » pour désigner ce corps-là. Mais il n'en va pas ainsi. Par conséquent, on constate par expérience directe que le mot « je » désigne autre chose que le corps, à savoir le soi. » Donc selon Chandrananda, la preuve que le sens premier, le sens littéral du mot « je », c'est le soi et pas le corps, eh bien c'est le fait que Devadatta, comme vous-même, se désigne lui-même en disant « je », mais personne d'autre ne l'appelle « je ». Tous les autres l'appellent Devadatta. Donc le « je », c'est ce mot très étrange qui est le plus universel, puisque chacun d'entre nous l'emploie, et qui pourtant est plus propre que notre nom propre, parce que le « je », ça ne désigne jamais que nous-mêmes pour nous-mêmes, et non pas pour les autres. Et c'est pourquoi, selon ce raisonnement, même si on peut considérer que les noms propres, en fait, ne désignent que les corps des différentes personnes, le « je », en tout cas, doit avoir pour sens premier le soi et non pas le corps, et c'est seulement de manière figurée que ce mot « je » ensuite peut en venir à désigner le corps. Mais alors, pourquoi est-ce que ce mot « je » peut en venir à désigner le corps, même de manière figurée? Eh bien, c'est ce qu'explique l'adversaire du bouddhiste Vasubandhu lorsque cet adversaire dit « dans les expressions « je suis pâle », etc. », le corps est visé de manière figurée comme le soi, bien qu'il soit en fait le serviteur du soi et non le soi lui-même, de même qu'un maître peut dire d'un serviteur qui se contente d'obéir à ses ordres, lui, c'est moi, car il est mon serviteur. Donc l'idée, c'est que nous pouvons légitimement recourir à l'occasion à cet usage figuré quand nous disons « oh là là, je suis pâle ce matin » au lieu de dire « mon corps est pâle » parce que le corps est entièrement subordonné au soi, il lui appartient et il le sert. Et de même, dans le Nyaya, Uddhottakara va expliquer que quand nous disons « je suis pâle » au lieu de dire « mon corps est pâle », eh bien c'est parce que le corps est le serviteur, là encore, du soi, et il reprend presque mot pour mot ici l'argument du personnage appartenant au Vaisheshika qui débattait avec Vasubandhu. Alors les bouddhistes vont devoir réfuter cette nouvelle explication et ils vont le faire en montrant que le mécanisme psychologique qui est à l'œuvre quand on emploie un mot de manière figurée n'a pas cours ici. Alors selon l'analyse sémantique indienne classique du nom, du sens figuré, en fait quand on dit par exemple à propos d'un village que ce village est sur le Gange, eh bien chacun comprend immédiatement que ce village ne peut pas réellement être sur le fleuve Gange parce que sinon il coulerait et donc il ne serait pas sur le fleuve. Et donc chacun comprend en entendant l'expression « un village sur le Gange » qu'elle n'a qu'un sens figuré et qu'en l'occurrence, elle signifie « un village sur la rive du Gange ». Donc pour pouvoir produire, pour pouvoir comprendre un sens figuré, il faut que le locuteur et l'auditeur aient conscience que quelque chose bloque, que quelque chose fait obstacle au sens littéral dans une situation donnée. Mais quand vous croisez votre image dans un miroir le matin et que vous vous dites « oh là là, qu'est-ce que je suis pâle aujourd'hui », vous ne faites pas l'expérience d'un tel processus mental qui comporterait cette conscience d'un blocage du sens littéral en question. Et c'est ce qu'explique le bouddhiste Kamalashila qui nous dit « Uddhottakara et d'autres affirment qu'il y a un usage figuré du terme « je » qui est normalement employé pour désigner le soi vis-à-vis du corps. Et ce, parce que le corps est le siège de l'expérience pour le soi, de même qu'un roi dit d'un serviteur obéissant « lui, c'est moi, car il est mon serviteur ». Mais tout ceci se trouve réfuté par ce que nous venons de dire. En effet, si la propriété d'être pâle était seulement attribuée de manière figurée au « je », le processus de compréhension du sens littéral serait entravé. Car quand les gens entendent le mot « lion », le processus de compréhension de la phrase « c'est un lion » n'est pas toujours sans entrave. Tout dépend si on parle d'un lion de manière littérale ou bien si on parle d'un jeune homme sur lequel on a surimposé l'image du lion. Alors on peut dire « c'est un lion » parce qu'on est devant un lion, et puis on peut dire « c'est un lion » parce qu'on est en train de parler d'un jeune homme dont on veut exalter la bravoure et la force. Mais quand on dit « c'est un lion » à propos du jeune homme, personne ne prend ses jambes à son cou, précisément parce qu'on a conscience que ce n'est là qu'une image. On a conscience qu'on parle figurément, et on le sait parce que le sens littéral, là, est bloqué, il est tout simplement impossible, il est entravé dans le contexte particulier. Or, nous dit Kamal Achila, ce n'est pas ce qui arrive quand nous nous disons « je suis pâle ». Les philosophes brahmaniques doivent bien admettre que nous prédiquons très littéralement du « je », des propriétés dont nous savons pourtant qu'elles concernent notre corps. Alors, la Mimamsa et le Vedanta, qui défendent l'idée du soi, vont adopter une attitude un peu différente dans cette affaire-là, parce qu'ils vont refuser, eux, d'accorder un sens figuré au mot « je » quand nous disons « je suis pâle, je suis gros », etc. Et la Mimamsa et le Vedanta vont affirmer, comme Kumarila dans la Mimamsa, que en fait, ce type de cognition-là, c'est tout simplement une forme d'erreur, Bhranti, Brahma, et c'est une erreur qui s'explique simplement en vertu, dit Kumarila, de la grande proximité ou de la relation très intime, très étroite qu'entretiennent le soi et le corps. Et dans le Vedanta, Shankara aussi affirme qu'il s'agit d'une simple erreur et non pas d'une expression figurée. Pourquoi ? Parce que même les savants, même les pandits, qui savent distinguer le soi du non-soi, ne distinguent pas le mot et la cognition « je » du corps auquel ils l'appliquent davantage que ne le font les gardiens de chèvres et de moutons. Par conséquent, la cognition du « je » appliquée au corps, etc., même par ceux qui soutiennent l'existence d'un soi distinct du corps, etc., est tout simplement erronée et non pas figuré. Donc l'idée que défendent la Mimamsa et le Vedanta, c'est que quand nous disons « je suis pâle », nous confondons notre soi avec ce qu'il n'est pas. Alors évidemment, selon eux, ça ne veut pas dire que le soi n'existerait pas, ça veut simplement dire que nous nous méprenons sur notre véritable identité. Bon, cela dit, les bouddhistes ont alors beau jeu de répondre que précisément, c'est une erreur, et une erreur qui révèle comment eh bien, nous confondons la collection impermanente des agrégats, des skandhas, avec un soi éternel et inaltérable. Quoi qu'il en soit, vous aurez peut-être remarqué que toute cette discussion sur le soi aujourd'hui ne comporte pas seulement une dimension phénoménologique, il ne s'agit pas seulement d'explorer la manière dont la conscience s'apparaît à elle-même dans différentes situations, parce que la théorie sémantique s'invite aussi dans cette controverse, l'analyse du sens des mots. Cela dit, vous pouvez constater aussi que ces analyses phénoménologiques et sémantiques ne sont pas du tout comprises comme des domaines qui seraient distincts et étanches. On ne dresse pas de barrière entre l'investigation des faits de conscience et puis celle des faits de langage. Alors, puisque nous en sommes à remarquer que l'enquête sur le soi, c'est à la fois une analyse des faits de conscience et des faits de langage, c'est sans doute le moment de rappeler que l'argument du Vaisheshika, fondé sur le mot « je », qui doit dénoter une entité distincte de toutes les autres, cet argument-là repose sur un principe qui est d'une grande importance dans tous les mouvements brahmaniques. Et ce principe, Johannes Bronckhorst l'a baptisé le principe de correspondance dans un livre important et que je vous recommande, qui s'intitule « Langage et réalité » sur un épisode de la pensée indienne. Alors ce principe de correspondance, c'est le postulat selon lequel les structures du langage doivent nécessairement et fidèlement refléter les structures de la réalité. Alors que les bouddhistes, de leur côté, n'ont eu de cesse d'essayer d'ébranler ce principe, d'essayer de montrer que, justement, les catégories de pensée brahmaniques sont profondément erronées, précisément parce qu'elles résultent d'une projection indue, illégitime, des structures du langage sur une réalité qui leur est en fait parfaitement étrangère. Alors on a vu comment Vasubandhu critique par exemple la distinction entre la substance et la qualité qui doit qualifier, comme un adjectif qualifie la substance. On a vu comment Vasubandhu déconstruit la prétendue unité de ce que dénote le mot « je ». Et puis Vasubandhu accuse aussi ses interlocuteurs brahmaniques de se laisser aveugler par les structures du langage quand ils affirment que tout acte, y compris l'acte de connaître, doit avoir un agent. Alors, Kartri, en sanskrit, vous vous souvenez que ça signifie l'agent, mais c'est aussi le mot qui désigne le sujet grammatical. Quand nous disons « je pense »,« je connais », »,« je perçois », etc., l'agent des actions exprimées par ces verbes, disent les philosophes brahmaniques, doit exister et il doit être le soi. Pourquoi ? Parce que tout verbe exprime un acte et requiert donc un sujet grammatical. Et ça, c'est un argument que formule l'adversaire de Vasubandhu quand il dit « le soi existe car une action requiert un agent ». Entre parenthèses, le terme qui est utilisé là a souvent un tout autre sens, bhava, mais ici il a le sens technique que lui donnent les grammairiens pour désigner l'action qui exprime un verbe. En effet, toute action requiert un agent. Et de même que dans cette proposition, Devadatta marche, l'action de marcher requiert l'agent qui est Devadatta, de même, connaître, c'est une action. Par conséquent, celui qui connaît doit exister. À ce défenseur du soi, dit Vasubandhu, il faut demander « et qui donc est ce Devadatta ?» Alors l'adversaire de Vasubandhu appartient au Vaisheshika, mais il emploie aussi des termes qui sont tirés clairement de la tradition grammaticale. Et pour montrer que le sujet des verbes ne peut pas être seulement les agrégats multiples du bouddhiste, qui sont tous causalement conditionnés, ce partisan du soi va faire référence à la définition par le grammairien Panini du sujet grammatical, puisqu'il nous dit « les experts en définition définissent ainsi l'agent ou le sujet grammatical, le sujet ou l'agent est indépendant. Mais les gens ordinaires aussi constatent, vis-à-vis de n'importe quelle tâche à accomplir, l'indépendance de quelques sujets agissants, par exemple celle de Devadatta, vis-à-vis des actes de se laver, de se nourrir, de se déplacer, etc. » Alors les experts en définition, le commentateur Yashomitra nous dit que ce sont les Vyakarana, les grammairiens. Et de fait, ici, le partisan du soi est en train de citer un sutra très célèbre de la grammaire de Panini, qui dit le sujet ou l'agent est indépendant, swatantra. Et il se sert de cette célèbre définition pour montrer que seul le soi peut être l'agent qui est requis pour toute action, parce que seul le soi peut être considéré comme une entité causalement indépendante, swatantra. Et vous voyez que nous revenons ici à la notion de substance dont nous avons vu tout à l'heure qu'elle est comprise dans le monde intellectuel brahmanique comme ce qui existe de manière indépendante ou ce qui subsiste par soi-même. Et la substance est opposée à cet égard à la qualité qui est définie, elle, comme forcément dépendante, paratantra, d'un substrat. Et cet argument a d'ailleurs été considéré comme une interprétation possible du passage de Nyaya Sutra qui dit qu'on doit inférer le soi parce qu'on appréhende un même objet par la vue et par le toucher. Selon le commentateur Udyotakara, le sens de ce sutra, c'est « le soi existe parce qu'une action requiert un agent ». Et ce sont les mots mêmes de l'adversaire de Vasubandhu qui sont employés ici. Et il continue en disant « la vue, c'est l'acte de voir, le toucher, c'est l'acte de toucher ». Donc ces cognitions, puisqu'elles consistent en action, démontrent l'existence d'un agent, car nous ne constatons jamais qu'une action soit sans support. Et Kudyotakara nous parle du sujet grammatical comme le support de l'action. Ça n'est pas une coïncidence non plus, parce que évidemment c'est encore la notion de substance comme support ou substrat qui affleure une fois de plus ici. Alors Vasubandhu met en question cet argument selon lequel toute action exprimée par un verbe requiert un agent ou un sujet, y compris ces actions qu'on décrit en disant « Devadatta pense »,« Devadatta perçoit », etc. Si bien qu'il faudrait considérer que la conscience, c'est une action effectuée par un agent qui serait le soi. De plus, dit-il, la conscience connaît de la même manière qu'une lampe se déplace. Et comment une lampe se déplace-t-elle ? Le terme « lampe » est employé de manière figurée et il désigne en fait la série des flammes successives et instantanées. Lorsqu'elle surgit en d'autres endroits que celui où elle est d'abord apparue, on dit qu'elle se déplace à tel endroit. De même, le terme « conscience » aussi est employé de manière figurée et il désigne en réalité la série des événements conscients. Et lorsqu'elle surgit en visant d'autres objets que celui qu'elle a d'abord visé, on dit que la conscience connaît tel et tel objet. Alors quand nous observons la flamme vacillante d'une lampe et quand nous nous disons « la flamme bouge », eh bien la structure même de cette phrase « la flamme bouge » nous incite à postuler l'existence d'une entité indépendante et permanente qui serait la flamme et qui serait capable de se déplacer ici et là, alors qu'en réalité, du point de vue bouddhique, aucune flamme ne se meut. En fait, ce que décrit cette phrase, ce n'est rien d'autre qu'une série de flammes multiples, singulières, dont chacune existe à des moments différents et en des lieux différents. Et de même, quand on dit « je pense ceci et cela », eh bien la phrase désigne seulement une série de cognitions distinctes dont chacune vise des objets différents, et il n'y a donc personne qui serait derrière la conscience et qui piloterait la conscience. Il n'y a donc personne qui effectuerait l'action de prendre conscience, personne qui serait le penseur de nos pensées, pas de sujet permanent qui effectuerait nos actes cognitifs. Il n'y a, disent les bouddhistes, que des événements cognitifs. Et sur ce, Rahu et moi, nous vous souhaitons une bonne semaine et nous vous remercions pour votre attention.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.